Filmez-moi, l'émission cinéma mensuelle de Nathalie Islaël. Bienvenue à vous, je suis ravie de vous retrouver pour la première de la nouvelle émission cinéma mensuelle sur Jet. Dans cette parenthèse cinéma, il y aura des coups de cœur pour des films récents ou pas, des actus sur les événements cinéma de la région et nous recevrons une invitée ou des invités qui viendront nous parler du rôle que le cinéma joue dans leur vie et partager avec nous quelques émois de cinéma, des films qui les ont touchés, marqués, interloqués, inspirés ou énervés, pourquoi pas. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Clément Vinette, artiste, vidéaste, nantais, dont on a pu voir deux œuvres à l'atelier à Nantes cet été dans le cadre du voyage à Nantes. Des œuvres sensibles et qui nous révèlent l'univers singulier de Clément, au plus près de l'humain. Clément, c'est un artiste multifacette. Il a fait quelques apparitions au cinéma. Il a été assistant metteur en scène au théâtre, je pense en particulier à la pièce Martin Eden, qu'on a pu voir au Théâtre universitaire de Nantes. Il est réalisateur et il aime aussi organiser des événements, comme ce festival de documentaires à Nantes qui a lieu très bientôt et dont il nous parlera. Bienvenue à toi Clément dans Filmez-moi.
Bonjour.
Alors, plongeons tout d'abord dans l'univers musical d'un film très attendu, sorti à la fin de l'été, dont je vous laisse deviner le titre et le réalisateur après ça.
Dedico este poema a la que fuera tan amada durante fugaces instantes. A la mujer de mis noches, a la que se iba al alba.
Alors Clément, est-ce que tu as deviné ce dont il s'agit ?
J'imagine que c'est le dernier film d'Audiard.
Oui, bravo, c'est tout à fait ça. Alors la musique qu'on vient d'entendre, en fait, je ne sais pas si vous l'avez reconnue, mais c'est l'adaptation de la chanson de Brassens, Les Passantes. Adaptation en espagnol. Et la musique du film de Jacques Audiard, Emilia Pérez, a été écrite par Camille et Clément Ducol. Donc ils ont repris en particulier des standards de la chanson française qu'ils ont traduite en espagnol. Donc c'est le dernier film de Jacques Audiard, et oui, qui a été récompensé à Cannes cette année par la Palme d'Or et aussi par le prix d'interprétation d'ensemble pour les quatre actrices principales. Et ça, à mon sens, c'est bien mérité. Il a rencontré un franc enthousiasme à Cannes, ce film, et c'est un peu un objet cinématographique à part, ou plutôt multigenre. C'est à la fois une comédie musicale, un film de bandit, un mélo, c'est plein de bons sentiments, c'est plein de romanesque. Ça ressemble un peu à une telenovela, finalement, et c'est totalement assumé par Jacques Audiard. Alors lui, il définit son film plutôt comme un film musical, plutôt qu'une comédie musicale, parce qu'au départ, ça devait être un opéra. Il avait commencé à écrire le livret, ça devait être un opéra. Et ça explique pourquoi c'est un film extrêmement stylisé, qui a été tourné en studio, sans aucun décor naturel. Alors, c'est censé se passer au Mexique, mais c'est absolument pas un documentaire sur le Mexique. Et ça, donc le pari, il était risqué, mais je trouve qu'il est réussi, grâce à l'incroyable direction d'acteur d'Audiard, à la mise en scène au cordeau, et à l'empathie du réalisateur pour ses personnages, en particulier pour le personnage principal. Le personnage principal, en fait, il a trouvé l'idée dans un roman d'un de ses amis auteurs, Boris Razon, et le roman s'appelle « Écoute ». Donc c'est un personnage de narco mexicain qui décide de changer de vie en changeant de genre. Et pour cela, qui fait appel à une avocate qui va l'aider à trouver un chirurgien et à mettre à l'abri sa petite famille qui le croit mort, moyennant un gros chèque de plusieurs millions qui l'aidera, croit-elle, à gagner sa liberté et à changer de vie. Alors, le rôle d'Emilia Pérez est joué par Carla Sofia Gascón. Donc, elle joue le rôle avant et après la transition. Elle-même a transitionné et elle a vraiment insisté auprès d'Audiard pour jouer les deux rôles, le rôle d'avant et après. Et elle est vraiment impressionnante dans sa métamorphose, c'est une comédienne très, très puissante. Et dans le rôle de l'avocate, on retrouve la sublimissime Zoé Saldana, qui était cloisonnée jusqu'à présent dans des films à portée plutôt fantastiques comme Avatar, Star Trek, ou les gardiens de la galaxie. Elle crève l'écran, on la voit pratiquement sur tous les plans. Alors, on a parlé déjà de la musique, hein, avec l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure. Donc, c'est Clément Ducol et Camille qui l'ont composée. Elle est vraiment partie prenante de l'histoire. Les actrices, elles chantent, elles dansent. Elles ne sont jamais doublées. Alors ça, c'était une performance, hein, pour elles. Mais finalement, les chansons, elles ne sont pas si nombreuses. Et elles sont toujours bien amenées. Donc, je dis ça pour ceux qui n'aimeraient pas, a priori, le genre comédie musicale. C'est un film que certains trouveraient peut-être un peu trop moral sur la rédemption, sur le pardon. Mais c'est surtout un film d'espoir qui fait du bien en ces moments, en ces temps où les horreurs du monde peuvent nous plomber. Et Jacques Audiard, il a vraiment pris ce parti d'étonner la catastrophe, finalement. Et Emilia, dans le film, dit une phrase, « Il est toujours temps de changer ». Et ça prend à contre-pied l'ordre établi de l'hyper-virilité. Et le film déconstruit les valeurs patriarcales. Et puis finalement, il nous laisse entrevoir que le progrès humain, l'éradication de la violence et du mal, pourrait venir des femmes. Alors, c'est sans doute un peu simpliste, mais pourquoi pas, on peut se laisser prendre à rêver de ce monde meilleur. Ça ne peut pas faire de mal. Donc, vous pouvez le voir au 14A, à Nantes, au cinéma Saint-Paul à Rezé et au Lutetia à Saint-Herblain. Clément, est-ce que tu l'as vu, Emilia Pérez?
Non, c'est mon programme de ce soir.
Ah, ben parfait.
Nous sommes toujours dans l'émission cinéma mensuelle Film et moi sur Jet et toujours en compagnie de l'artiste vidéaste nantais Clément Vinette.
Ce soir-là, ce n'est pas tout à fait une inconnue qui s'est approchée de moi.
Florence ?
J'aime beaucoup ton ventre.
T'es gentil.
Qui va s'en occuper de ce loustic ?
Bah, moi, avec celui qui sera là quand il sortira.
Bienvenue, Jim. Tu marches, là ?
Pourquoi t'appelles le même nom que maman et moi?
Bon, on a décidé de pas faire comme tout le monde. Jimmy boit du gin
dans sa Chrysler. Bonsoir.
C'est Christophe. Jimmy veut lui plaire.
Il faut laisser la possibilité à Christophe de faire connaissance avec son fils.
Son fils? Hop!
Ah, mon gamin.
Il va falloir que j'appelle aussi papa Christophe.
Non, t'as obligé à rien.
Mais c'est Christophe qui a foutu la main entre vous.
Si on avait été encore amoureux, jamais on l'aurait laissé s'installer avec nous. Je crois qu'on reste ensemble à cause de Jim.
À Jim.
À Jim.
Ton messager vient de me parler de votre beau projet.
T'inquiète pas, on va s'arranger. Tu viendras souvent.
Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est le teaser du film Le Roman de Jim, qui est le 9e film des frères Larrieux, à qui on doit déjà Peindre ou faire l'amour, Le Voyage aux Pyrénées, L'amour est un crime parfait et leur dernier film, qui datait de 2020, c'est Tralala. C'est un film qui est adapté du roman éponyme de Pierrick Bailly. Et le personnage principal, d'ailleurs, s'appelle Aymeric Bailly. Les frères Larrieux, ils aiment filmer la montagne. Ils ont grandi dans les Pyrénées, donc ils filment habituellement dans les Pyrénées. Cette fois, ils ont planté leur caméra dans le Haut-Jura. C'est vrai que dans le film, les paysages, la nature jouent un rôle assez important. Aymeric, donc, il est interprété par le tendre et puissant Karim Leclou, qui porte avec vraiment beaucoup de subtilité le rôle de ce père de substitution. Le personnage d'Aymeric, il ne revendique rien, il ne se sent légitime en rien. Et à 25 ans, il rencontre Florence, de 15 ans son aînée, interprétée par la géniale Laetitia Deutsch. Alors Florence, elle est enceinte et le père biologique est marié, il est déjà père, il ne veut pas reconnaître l'enfant, il ne veut pas s'en occuper. Mais Florence décide de garder l'enfant et de l'élever seule. C'est sans compter sur Aymeric qui accepte, sans le revendiquer, d'élever Jim. Et sa façon de se mouvoir, la tendresse qui se dégage de lui, en font à la fois un père et une mère. Mais son rôle de père de substitution est remis en question quand le père biologique réapparaît dans la vie de Florence. Alors la question se pose alors de savoir si l'instinct paternel existe. Les frères Larrieux, ils nous apportent leur réponse, sans jugement, sans aucun mépris, pour les choix de leurs personnages, qui ont tous leurs raisons et qui ne cherchent pas à faire de mal, en fait, de façon consciente, même si leurs décisions peuvent heurter leur entourage. Et c'est peut-être pour ça qu'on se reconnaît assez facilement dans ces personnages ordinaires qui sont à notre image et dont les réalisateurs brossent un portrait tendre et brut à la fois. Donc, je vous le recommande vivement et vous pouvez le voir, le roman de Jim, donc au cinéma Concorde à Nantes et au cinéma Lutetia à Saint-Herblain. Donc, Clément, est-ce que tu l'as vu ?
Non.
Non, tu ne l'as pas vu. Tu ne l'as pas vu non plus. Mais c'est vraiment un film très, très prenant, très à la fois réaliste, très touchant, très émouvant. Donc, je vous le recommande vivement.
Nous sommes toujours dans l'émission cinéma mensuelle Film et moi sur Jet et toujours en compagnie de l'artiste vidéaste nantais Clément Vinette.
Alors Clément, est-ce que tu as reconnu cette musique ?
Oui, très bien.
Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Eh bien, c'est un morceau qui est dans le film Holy Motors de Léos Carax et un morceau qui est interprété en partie par Denis Lavant à l'accordéon. Et c'est... je crois un morceau qui se passe à peu près qui en fait en tout cas c'est un petit moment un peu clip, c'est une vraie pause et Léos Carax l'annonce dans le film avec un signe, un moment où on sait qu'on va tout d'un coup assister à un morceau de musique. Et c'est un morceau que j'aime beaucoup.
Ah bah ça tombe bien, pourtant on s'est pas concerté, mais c'est vrai que je trouvais que ça, c'était intéressant, en plus de savoir que Denis Lavant, il a appris l'accordéon spécialement, spécifiquement pour jouer ce morceau dans le film de Carax. Donc Holy Motors, si on peut replacer, ça fait partie des films que tu as choisi, dont tu avais envie de parler. Donc c'est un film de 2012 qui avait été présenté à Cannes à l'époque, et qui avait, alors quand j'ai regardé un petit peu, il avait été considéré comme le film le plus original. C'est vrai que l'univers de Carax, hein, il est très particulier. Et le titre, je me suis posé la question, mais pourquoi ce titre, Holy Motors? Et ça lui était inspiré par un voyage qu'il a fait aux États-Unis, où il a vu de longues limousines blanches. Et métaphoriquement, lui, il y a vu de longs vaisseaux qui guident les gens vers leur dernier voyage. Donc c'est vrai que... Et c'est le nom qu'on donne à ces limousines, hein, Holy Motors. Ah, dans le film, on voit Michel Piccoli aussi, qui est grimé. On voit Eva Mendes... masqué, on voit Kylie Minogue quand même dans un rôle un peu à contre-pied, cette roqueuse, hein, qu'on ne s'attend pas forcément à voir dans un film de Carax. Et Carax, il a utilisé des caméras numériques pour le filmer, pour des raisons de coûts financiers, même si c'est intéressant, même si a priori, ce n'est pas une technique, lui, qu'il appréciait particulièrement. Donc, c'est assez stylisé aussi. Il utilise aussi, par moments, la technique du data moshing, donc où c'est des images, alors, je ne sais pas, tu pourras peut-être m'en parler davantage, parce que c'est des images, en fait... On change la compression d'une vidéo pour faire basculer une image réelle vers une image abstraite, assez inattendue. Il utilise aussi la technique de la chronophotographie, alors là, qui est beaucoup plus ancienne, qui date du 19e siècle, et qui correspond aujourd'hui à la technique quand on prend des photos d'une prise de vue photo en rafale, mais qui existe depuis en fait le 19e siècle. Donc voilà ce qu'on peut en dire. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, Clément, pourquoi tu as choisi ce film Holy Motors?
Je trouve que c'était une bonne entrée en matière dans ce petite rencontre, parce que, en fait, comme tu le disais, il y a énormément de choix techniques et formels qui sont présents dans ce film, et on sent que Carax, il s'est pas mal amusé et il s'est pas mal marré à essayer des choses. Et le film, dans son histoire, c'est un personnage un peu mystérieux qui se grime pour incarner des personnages qu'on découvre à chaque fois avec lui. Donc c'est porté par Denis Lavant, un acteur qui est quand même assez incroyable, enfin de mon point de vue. Et du coup, c'est un film qui, moi, m'a beaucoup marqué, parce que j'ai eu le sentiment, quand je l'ai vu, qu'il y avait une vraie liberté, une envie de prendre un peu le film comme un exercice, de jouer avec les contraintes un peu tout le temps, à la fois dans la mise en scène, à la fois dans la forme. Tu disais qu'il y avait du motion design, enfin voilà, la chronophotographie, je savais pas que c'était ça avait été utilisé là-dedans. En tout cas, c'est un film qui est assez réjouissant en termes de forme et en termes de vraie liberté, et qui donne envie, enfin moi, qui m'a donné envie de faire du cinéma aussi, qui suit un fil narratif qui est pas tout à fait clair, qui laisse un peu la part belle aux spectateurs de spectateurs et spectatrices d'interpréter un peu ce qu'ils veulent. La fonction de ce personnage, on sait pas vraiment ce que c'est une sorte de passeur, donc il y a quelque chose un peu de l'ordre du mythe. En tout cas, pour tout ça, c'est un film qui m'a vachement touché, et que j'aime bien, et que j'ai pas trop envie de re-regarder. Je sais pas comment il a vieilli, mais je sais que je le re-regarderai un jour, mais je le garde encore un peu au chaud, quoi.
Pourquoi tu as peur d'être déçu
parce que ce comme certains films, plus on le regarde, plus on l'épuise. Alors peut-être ça marche pas pour tous les films, parce qu'il y a d'autres films que j'ai regardés à plusieurs reprises et pour lesquels j'ai toujours autant de plaisir à le revoir. Mais celui-là, je sais pas, je me dis qu'il y a... Il a généré pas mal de trucs chez moi, je pense, sans que je le sache vraiment, qui m'ont peut-être poussé à faire des trucs. Alors j'en sais rien, j'extrapole, mais c'est le sentiment que j'ai. Je me dis que si je le re-regarde, que je le réanalyse, peut-être qu'il perdra de sa saveur, quoi. Alors je le garde là où il est dans ma tête, quoi.
C'est peut-être parce que maintenant tu as plus les moyens d'analyser, on va dire, ayant commencé à faire du cinéma, les choses, donc tu réagirais moins à l'émotion, peut-être.
Ouais, peut-être. Ouais, peut-être que je me dirais, ah ouais, il a fait ça comme ça, purée.
Moi j'aurais fait ça comme ça.
Ouais. Et du coup, ça peut être intimidant aussi pour créer.
Oui.
Donc voilà.
Ah oui. Ouais. D'accord, le côté un peu plombant quand on...
Bah non, mais on peut se dire, ah bah ça a déjà été fait, puis c'est très très bien fait, donc autant ne pas le regarder et puis faire.
D'accord.
Non, je sais pas vraiment, mais...
Ok. Ouais. Alors le deuxième film dont tu avais envie de nous parler, c'est un film qui s'appelle La Fièvre, qui date de 2019 et qui a été réalisé par une réalisatrice brésilienne qui s'appelle Maya Darin. Et qui a été sélectionné à l'époque au trop méconnu festival Locarno, qui est pourtant un festival qui a vraiment une résonance internationale, mais dont on ne parle pas suffisamment, je trouve. Et c'est le portrait d'un Amérindien dans le port de Manaus, qui se trouve dans l'état d'Amazonas, au nord-ouest du Brésil. Et l'acteur a eu d'ailleurs le prix d'interprétation masculine. Qui s'appelle Régis Mirupu. Et la réalisatrice, elle a fait un long travail avant le film avec les habitants de cette région où il y a une vingtaine de peuples autochtones qui habitent, qui partagent une langue commune et qui croient aux relations entre les êtres humains, les animaux, la forêt, donc qui croient en la force de la nature. Donc c'est un film poétique et politique, moi je dirais, qui décrit peut-être la lente déliquescence aussi de ces peuples, ou d'un peuple qui est victime d'une sorte d'acculturation forcée, qu'ils n'ont pas choisie. Et d'ailleurs, un de tes documentaires, Clément, qui s'appelle Lourine, tu me corrigeras si je prononce mal, qui vient du nom de cette vallée du Pérou au sud de Lima, aborde cette question du rapport de l'humain avec la nature et dans ton documentaire, plus particulièrement avec l'eau. En quoi cette question te préoccupe dans ton travail du rapport de l'homme et de la nature et en quoi le cinéma peut mettre en lumière la dégradation de la nature par les activités humaines? Alors, ça fait deux questions en une. Mais...
et puis, comment le lier avec le film de Maya Darin? Alors effectivement, oui, je me suis retrouvé à bosser au Pérou deux années de suite pendant des périodes de 3 à 4 mois dans le cadre d'une résidence artistique à laquelle j'ai participé. Et en fait, vu que je suis passé par une formation des beaux-arts, j'ai peut-être...
À Nantes,
ouais. J'ai un petit formatage qui a ses avantages et ses inconvénients, mais d'avoir cette envie de bosser un peu sur un territoire et de pas trop savoir ce qu'on va y faire. Et puis, de petit à petit, s'enrichir, comprendre la complexité entre soit les communautés qui vivent sur place, soit les questions de paysage, etc. Et donc, c'est ce qui m'a amené à penser mon premier film comme ça, c'est-à-dire à passer du temps dans cette région au sud de Lima, qui est une région très, très complexe, qui est en pleine mutation démographique et une mutation urbaine aussi. Et donc, je me suis vraiment mis à cet endroit-là et j'ai passé du temps. J'ai essayé de trouver des prétextes pour parcourir la vallée qui est un peu segmentée par les différentes parcelles agricoles et un truc assez fort de la propriété privée. Et pour trouver ce biais, j'ai utilisé les canaux les canaux et le fleuve pour essayer d'arpenter et me dire je vais suivre ce canal-là et on va voir où est-ce que ça va m'amener et à faire des rencontres. Ça répond pas exactement à la question, mais en tout cas, le film, il a peut-être une manière un peu exhaustive d'essayer de parler de tout ça sans prendre vraiment parti. D'ailleurs, je prends pas parti, mais je m'intéresse à deux manières de travailler avec ce lien entre les deux, qui est le fleuve Lourine. Donc je me suis intéressé à deux personnages. Un qui s'appelle Julio et qui a eu une exploitation agricole qu'il a transformé en piscine, en lieu de piscine, parce que c'est un truc qui se fait de manière très courante dans cette région-là, qui est en train de s'urbaniser. Et donc, bah voilà, il y a des besoins pour les populations, et donc la piscine en fait partie. C'est un lieu de loisirs. Et de l'autre côté, Edwin, qui lui continue de travailler dans une exploitation agricole et pour qui c'est pas très simple de vivre. Et ces deux personnages-là ont en commun de travailler donc avec la ressource, l'eau, en fait, le fleuve. Et donc, je me suis intéressé à leurs deux manières de travailler et aux gestes du travail. C'est un truc que je répète depuis longtemps. Qui m'intéresse et de trouver des analogies entre les deux manières de travailler, les analogies ou les contrastes très forts.
Okay. Si on revient au film La Fièvre,
ouais.
est-ce que tu trouves que la réalisatrice, elle, pour le coup, juge ou porte un regard jugeant sur cet état de choses, hein, de disparition d'une forme de... Voilà, rapport à la nature de par l'exode rural, etc.
Non, elle juge pas, elle fait un état de fait des choses. Et j'ai vu ce film-là un peu par hasard au festival de films de Douarnenez.
Très bon festival, ouais. Dont on ne parle pas assez.
et en fait, c'était marrant parce que moi, j'étais allé à Manaus, je sais pas, peut-être un an ou deux avant. Et donc, j'étais très, très, très curieux de ce film parce que cette ville est assez curieuse. C'est une énorme ville au milieu de la forêt amazonienne où la nature est très, très imposante. Dès que le moindre immeuble qui s'effondre un petit peu ou qui est inhabité, il est rongé par la nature et par des forêts très, très riches. En tout cas, la manière qu'elle a eu de filmer, elle a créé une fiction de personnes qui viennent de communautés indigènes qui sont juste en amont du fleuve Amazon, qui s'installent à Manaus, comme c'est le cas pour beaucoup de familles. Et elle parle surtout d'une relation entre le père de famille et sa fille, et dont la fille veut faire des études de médecine et se confronte à la question de la médecine qui est enseignée au Brésil et qu'on enseigne partout dans le monde, hein, une médecine assez conventionnelle, et leur rapport aussi à leur médecine à eux qu'ils ont dans les communautés, qui est différente et qui se base pas sur les mêmes manières d'envisager le vivant et nos environnements. Et donc, du coup, voilà, ça crée une forme de conflit, déjà générationnel entre deux, et elle, un conflit vis-à-vis de ses propres racines, ses propres manières de jouer le truc. Mais à aucun moment, Maya Darin juge quelque chose, elle fait état de cette situation-là. Et ce qui est assez beau, c'est que ces personnes-là ne sont pas des comédiens, et elle les dirige de façon assez magistrale. C'est un film, je ne sais pas s'il est très connu, mais qui, moi, m'avait vraiment beaucoup, beaucoup touché, parce qu'il y a un peu de fantastique aussi. Il y a l'apparition d'une bête sauvage qui revient dans la ville régulièrement, qui vient faire une trame narrative dans le film, et on ne voit jamais cette bête. On ne sait pas vraiment si c'est de l'ordre de la croyance de ces personnes.
Ça rappelle un peu le règne animal, avec ces créatures.
Et ben, je ne l'ai pas vu, mais on m'en a parlé, ouais. Voilà, et donc il y a une manière de parler des choses et surtout de vivre le film avec les gens qu'elle filme, à qui elle a demandé de jouer, qui est assez, pour moi, assez juste, très minimal et très forte. Quoi.
Merci Clément, donc La Fièvre, à voir.
Nous sommes toujours dans l'émission cinéma mensuelle Film et moi sur Jet et toujours en compagnie de l'artiste vidéaste nantais Clément Vinette.
Hé, hey, vous les dessins genre là, vous allez arrêter, oui?
Excusez-moi, vous n'avez pas vu un homme, la quarantaine, toujours la cigarette à la bouche?
C'est quoi ça? Pardon, je comprends pas.
Mon mari est sorti, il y a les émeutes des jeunes. Le général de Gaulle a disparu.
Mais non, mais vous êtes pas au courant? Et on est dans le futur ici, hein. Et on vient de vous décongeler.
Ah bon?
Faut vraiment pas avoir de cœur.
Ah, mais c'est bon, c'est marrant.
Alors, Clément, je pense que tu as reconnu un extrait d'un film qui fait partie de ceux dont tu avais envie de parler. Voilà.
Oui.
Est-ce que tu peux nous dire ce dont il s'agit ?
Eh bien, c'est Les Beaux Gosses de Riyad Sattouf.
Oui. Un film qui est sorti en 2009 déjà, ça passe vite.
Ouais.
Et donc c'est Vincent Lacoste hein, qui joue le rôle d'Hervé, donc cet ado physique ingrat et au mental très friable, qui se débat avec la découverte de sa sexualité et sa mère envahissante, interprétée par la géniale Noémie Lvovsky. Donc c'est vraiment un portrait terrible, assez terrible de l'adolescence. Je trouve qu'il y a un esprit assez régressif dans ce film, un peu à la Fluide glaciale. Et puis à la fois un côté un peu potache, franchouillard, et puis assez cru et réaliste. Et il a rencontré un sacré succès à l'époque. Donc pourquoi est-ce que tu as choisi de nous parler de ce film ?
Parce que c'est un film, pour le coup, contrairement à Holy Motors, que j'ai regardé à plusieurs reprises, et c'est toujours un vrai moment chouette et qui me fait rire. Enfin, ça me fait vraiment beaucoup rire. Et je trouve assez génial la manière dont ça a été fabriqué. Et bah, Riyad Sattouf a fait de la BD, il continue à faire de la BD. Et voilà, il est très connu pour son travail d'auteur de BD, qui est par ailleurs super aussi. Mais là, je trouve qu'il a vraiment réussi à faire un film bande dessinée. Où on appuie le trait, on grossit le trait sur certains détails, et je trouve que c'est aussi sa force, parce que dans ses bandes dessinées, dans l'Arabe du futur, dans les Cahiers d'Esther aussi, il réussit à avoir un regard sur les jeunes, sur l'adolescence sur l'adolescence et l'enfance qui est vraiment, moi je trouve, vraiment qui englobe un truc à la fois très juste, très pertinent, un truc un peu d'analyse très fine, et en même temps un truc qui, bah ouais, qui embrasse ce que c'est d'être un ado à ce moment-là. Et je l'ai pas vu récemment, mais j'ai l'impression qu'il a pas vraiment beaucoup vieilli. En tout cas, rien que cet extrait me fait toujours beaucoup rire, quoi. Et voilà, le
oui,
film.
Oui, il y a des répliques qui sont devenues cultes, hein,
ouais.
Finalement.
Ouais.
Ouais. Ouais.
Et ouais, moi je me suis vu ado vraiment beaucoup. Je sais pas, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment très drôle. Je sais pas, il y a un truc très, 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 très chouette dans ce film.
Ouais. Donc voilà, c'est toujours à revoir, hein, ce film,
ouais.
Avec voilà, Vincent Lacoste et beaucoup d'autres. Vincent Lacoste qui a fait une carrière à la suite de ce film. Je sais plus, je crois que c'était son premier rôle, il
ouais,
me semble.
Je crois.
Et donc, ça l'a aidé à poursuivre. Et voilà, on rigole toujours autant, hein, de ce portrait très, ouais, très cru, mais tellement drôle. Alors, à propos d'humour, c'est quoi le rôle de la comédie, l'humour dans ton travail?
C'est quelque chose que je maîtrise pas vraiment, et c'est souvent quelque chose qui arrive au bout d'un moment dans mes projets et dans mes films. Pas tout le temps, parce que en l'occurrence dans Lourine, le film que j'ai fait au Pérou, il y a pas ou peu d'humour. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a je sais pas, là, dans les deux films que j'ai présentés à l'exposition, Les Bruits du Reste, qui est un dispositif documentaire avec deux brocanteurs, Alex et Marc, et dans La Visite, qui est une visite guidée à la ferme chez un ami à moi qui est éleveur, qui s'appelle Benoît Baron. Effectivement, il y a une dimension comique. On m'en parle souvent, je sais pas vraiment en parler. C'est pas quelque chose que je maîtrise. Je pense que c'est quelque chose qui est de manière générale dans ma vie, peut-être de manière de voir les choses, d'avoir envie de se marrer pour je sais pas, affronter la vie, je sais pas,
ouais.
Des gros poncifs. Là, mais,
disait Chaplin, renforcer notre instinct de survie.
Ouais, ouais.
Il disait ça, et puis voilà, bah, sauvegarder notre santé mentale peut-être aussi, voilà, face à
ouais.
Des choses un peu dures.
Ouais, ouais, et puis je sais pas, je pense que c'est une manière de décaler, de déplacer les choses, et que peut-être qu'il y a un truc universel dans le rire, alors pas dans tous les rires, et pas dans toutes les manières de faire rire, mais je crois que je suis assez attaché à quelque chose qui tient un peu du burlesque dans la présence de nos corps à l'image, la représentation des corps. Je pense que c'est quelque chose qui vient un peu du théâtre aussi, où j'ai bossé pendant longtemps. L'outil du corps peut raconter beaucoup de choses, Et le burlesque, ouais, c'est quelque chose qui vient assez naturellement. Et des fois, je lutte contre cette idée de faire rire. Je pense que je peux très vite tomber dans un truc un peu potache et mal dosé. Alors du coup, je pense que j'envisage souvent les projets en me disant qu'on va pas forcément rire. Et puis, au moment de la réalisation et par exemple du montage, ça vient naturellement. Je me dis, là, on rit. Si moi je me marre un peu, bon, il y a des chances pour qu'il y ait d'autres gens qui se marrent aussi.
Il voilà. y a le côté cocasse, finalement. Peut-être pas le gros rire, mais dans le travail que tu as présenté cet été-là, à l'atelier, il y a quand même, effectivement, sur le voyage à la ferme, la présentation, dans ton rôle de guide, on va dire. C'est un côté cocasse. On sourit, je trouve. Enfin, moi, j'ai souri. C'est pas forcément un gros rire aux éclats, mais et qui rend des personnages hyper attachants finalement. Ça sert peut-être à ça aussi.
Ouais, peut-être. C'est cocasse. Peut-être cocasse et le ridicule peut-être aussi.
Oui aussi, par moment.
Ouais.
Mais c'est pas jugeant non plus, donc finalement.
Non, non.
Ouais. Donc c'est ça qui.
Le ridicule.
Le côté à la Tati, quoi. Un peu. Hein, moi je trouve. Enfin, ça m'a rappelé ça.
Okay. Hein,
quand j'ai vu ton film. Alors moi je voulais te demander comment tu découvres les films. Par quel biais ? Est-ce que tu vas au cinéma ? Est-ce que tu utilises des plateformes ? À propos de plateformes, alors moi je voudrais parler d'une plateforme qui s'appelle Tank, je ne sais pas, qui est une plateforme pour les documentaires. Et il y a la plateforme Capucine aussi. Donc c'est des plateformes qui ne sont pas forcément très connues, mais je vous encourage vivement à aller voir. Alors certes, c'est payant, mais ça vaut le coup. C'est pas cher de louer un film. C'est moins cher que d'aller au ciné, même si le ciné c'est bien aussi. Mais pour les documentaires en tout cas, ces plateformes elles sont vraiment chouettes. Donc est-ce que tu utilises, je ne sais pas moi, téléchargement ? Est-ce que tu vas dans des festivals ? Tu nous as parlé du festival de Douarnenez, ou est-ce que tu as d'autres plateformes peut-être à nous recommander?
Je j'utilise tous ces supports là pour voir des films, les plateformes, les festivals et le cinéma, la salle de cinéma qui est quand même un endroit super, même si c'est un peu par période, quoi. Il y a des fois j'y vais beaucoup et puis des fois pas du tout. Là, je pense que ça va faire peut-être depuis le mois d'avril dernier, donc que je suis pas allé au ciné, donc ça va faire plus de 6 mois.
Mais tu as vu des films quand même.
Mais j'ai vu des films. Du coup, j'en vois effectivement sur des plateformes et en festival. Du coup, sur les plateformes, j'utilise Tank, qui est assez chouette. J'utilise Arte. Voilà, je regarde des trucs sur Arte. Les Capucines, je ne connaissais pas. Je regarde Mubi aussi, voilà. Et puis après, je vois des films dont on m'envoie les liens. Je fais du piratage super illégal parfois.
Pas entendu.
Et sinon, ouais, je vais. Les festivals, c'est des endroits assez chouettes pour voir des films.
Et le côté partage, vraiment, échange et rencontre aussi avec les réalisateurs.
Ouais, et puis il y a un peu une effervescence, où, par exemple à Douarnenez, ou à Lussas, ou à Mélionnec, où je ne suis encore jamais allé, mais à Mélionnec, c'est aussi un festival de documentaires. Il y a une petite effervescence, et tout d'un coup, on se plaît à aller voir 3 films dans la journée. Il y a quelque chose d'assez assez plaisant. Puis voilà, on prend une dose de
condensé de un moment de cinéma, on en prend plein. Et,
Ouais. Après, je suis pas sûr d'être un grand cinéphile. J'aime bien voir des films, mais je suis pas sûr d'en regarder beaucoup. Je suis pas très très au fait de l'actualité des films non plus. Enfin voilà.
Ça t'empêche pas d'en voir et d'être inspiré. Vu la liste que tu m'as fournie de films qui t'ont inspiré, voilà, on peut dire. Malgré tout que tu en aies un.
Oui, peut-être.
Parce que voilà, ton travail le prouve de toute façon.
Nous sommes toujours dans l'émission cinéma mensuelle Film et moi sur Jet et toujours en compagnie de l'artiste vidéaste nantais Clément Vinette.
De s'arrêter ou de se soumettre, rébellion, jugement, non, contrat. Qui sert cette lampe ? Tu peux rajouter ça. De toute façon, tu me connais. Ça sera moi ou pas moi, je n'irai les filles dans les deux cas, donc. C'est pas moi qui vais avouer. C'est encore maman qui va aller me rendre, tu vois.
Tu crois pas que tu pourrais être fort sans ça? Sans ce côté un peu dur et violent?
Dans ma vie, j'ai vécu des trucs vraiment durs. Et au gars, je suis là. Je fume pas, je bois pas, je me drogue pas. Et dans ma tête, ça va bien, je suis réglé.
T'as quand même toujours un peu peur de péter les plombs, non?
Moi, je rêve d'avoir une maison à la campagne, d'avoir une femme, beaucoup d'enfants, d'avoir une vie libre. Une vie libre.
Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est le teaser d'un documentaire que tu m'as fait découvrir, Clément. Vraiment, je t'en remercie, qui s'appelle « Seuil libré ». C'est un documentaire de Laure Portier qui est sorti en 2021. Alors moi, je dirais il y a des documentaires en fait, sur des pays, des gens, et il y a des documentaires avec. Et les deux documentaires dont j'aimerais parler avec toi, c'est plutôt des documentaires qui ont été faits avec. Et donc, « Seuil libré », il a eu le grand prix du jury à l'excellent festival Premier Plan d'Angers, dont tu as parlé tout à l'heure. Il a eu une mention spéciale du jury au festival de Zurich. Et la réalisatrice, donc Laure Portier, filme Arnaud, son petit frère, sur une période de 15 ans. Alors elle le filme au plus près, elle filme ses errances, elle filme ses coups de sang. Et c'est vraiment l'histoire d'une relation à travers l'objet film. Et c'est ça que j'ai trouvé passionnant. Et c'est aussi l'histoire d'une trajectoire au vu du temps qu'elle a mis à filmer son frère. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit aussi que son frère, à un moment, il en a un peu marre, que sa sœur le film, il comprend pas trop ce qu'elle cherche. Et du coup, elle lui offre une caméra. Et il se filme pour qu'il se filme seul. Et ce qu'il filme de lui, la réalisatrice ne l'aurait sans doute pas filmé, perçu. Donc moi, je trouve que c'est vraiment un film de cœur, c'est un film assez intransigeant et qui est très loin des stéréotypes sur les errances, sur la prison. Et c'est peut-être le cinéma, je ne sais pas ce que tu en penses, permet vraiment de déplacer le regard sur les hommes, les humains, et surtout le documentaire. Hein. Peut-être de faire bouger les lignes. Alors, c'est peut-être un peu trop lui demander. Mais en tout cas, c'est ce qui, enfin, moi, me touche vraiment en plein cœur quand je regarde ce genre de documentaire. Je ne sais pas si tu veux en
parler. Ouais, c'est un film qui m'a énormément touché. En fait, ça fait quand même le portrait de ce jeune homme-là, Arnaud, qu'on voit évoluer sur plusieurs années. Donc, c'est assez incroyable pour nous en tant que spectateurs en 1h20, ou je sais plus combien de temps il dure, peut-être un peu moins, je sais plus, mais de voir aussi le parcours de ce gars-là avec, ben voilà, on sent que c'est pas simple pour lui les choses et le regard de sa sœur est extrêmement juste, précis et dans un truc où on est embarqué avec elle et avec eux et avec lui. Je sais que j'avais été vraiment marqué aussi par cette relation dont tu parlais juste avant, cette relation entre eux et cette relation dont on parle souvent en documentaire, qui est le filmeur et le filmé, ou en documentaire, enfin, en fait, le spectre du documentaire, c'est quelque chose qui est très très large entre d'un côté le reportage télévisuel et à l'autre bout du spectre le cinéma d'auteur ultra stylisé où il y a une voix seule de quelqu'un qui raconte des choses de lui. Il y a une fourchette, enfin voilà, il y a un prisme très large et je trouve que elle se situe à un endroit, enfin Laure Portier avec ce film-là se situe à un endroit qui est vachement bien, qui mêle un peu toutes ces questions-là. qu'est-ce que c'est que cette personne-là, qui est son frère, qu'est-ce que c'est qu'eux deux, qu'est-ce que c'est que de les filmer. Et du coup, ça nous pose la question de qu'est-ce qu'on regarde, nous. Et tout ça est hyper vivant en permanence, tout en suivant ce jeune homme-là qui a des moments d'énergie extrêmement forts. Et on vit avec lui, quoi. On vit avec eux. C'est super.
Alors, il y a un autre documentaire que tu nous conseilles, je suppose, puisque c'était dans ta liste de choix. C'est Le Kiosque d'Alexandra Pianelli, qui est sorti en 2021. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
L'histoire du film, en gros, c'est elle qui se filme en travaillant dans le kiosque qui appartient à sa mère. Donc, je ne sais plus si elle la remplace sur juste une période ou si elle vient de l'aider. En tout cas, Alexandra Pianelli se retrouve à vendre les journaux dans ce kiosque parisien. Et en fait, elle fait une galerie de portraits des clients qui viennent dans ce kiosque. Et donc, on voit une espèce de diversité de personnes issues de milieux assez différents, à la fois quelques notables, petits bourgeois ou jusqu'au SDF qui vient régulièrement prendre contact en fait avec le kiosque. On sent que le kiosque devient une espèce de lieu de partage et de rencontre. Et c'est super beau. Elle filme avec une qualité d'image qui n'est pas en 4K HD ni en pellicule extrêmement stylisée, etc. C'est de la GoPro, c'est accessible à tout le monde. Elle peut le faire. Et pour autant, il se passe un paquet de trucs super dans son kiosque. Et vraiment, on passe par un paquet d'émotions, du rire aux larmes. Et en parallèle de ça, elle parle aussi de comment est-ce que l'industrie, enfin, la presse et les kiosques fonctionnent.
Moi, ça m'a fait penser à ton travail sur les brocanteurs de la place Sainte-Croix, oui, à Nantes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où vient cette envie de filmer ? Alors, est-ce que c'est une rencontre avec quelqu'un ? Est-ce que c'est un choix délibéré de filmer des brocanteurs à un endroit donné ? Et tu les filmes, je pense, ou tu vas les filmer sur un laps de temps assez long, il me semble.
Ouais, alors ce projet de film avec les brocanteurs, il a commencé il y a 4-5 ans, justement, quand je suis rentré du Pérou. C'était le Covid, etc. Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut voyager un peu à l'intérieur de sa ville. J'avais déjà bossé avec Alex, ce brocanteur-là. Je l'avais déjà rencontré, j'avais déjà un peu vu comment ça se passait. Ça m'avait déjà pas mal intéressé, rendu curieux. Et je me suis dit, bon, bah, cette fois, je vais y aller avec une caméra et puis je vais voir. Et en fait, ce qui est assez incroyable avec le métier de brocanteur et la manière avec laquelle le fait Alex, c'est qu'on se balade en camion dans la ville, on va vider un appartement bourgeois de la rue de Strasbourg en plein centre-ville pour ensuite aller à la ferraille, puis à la déchetterie, puis au stock de Toiré, et puis ensuite revenir dans le centre-ville. Il y a une espèce de boucle incessante où on traverse des zones qu'on traverse peu d'ordinaire. Donc c'était un peu ma première manière de rentrer dans cette envie de film, voilà, de faire des parcours, des trajectoires géographiques dans une ville que je connais mais que je redécouvre avec Alex. Et puis après, petit à petit, j'ai rencontré Alex et je me suis intéressé à ce jeune homme-là qui a 4-5 ans de plus que moi et qui est brocanteur depuis bientôt 10 ans. Et donc, je me suis mis en tête de faire le portrait d'Alex. Et donc là, ce qu'on a vu pendant l'exposition
à l'atelier,
oui. C'était une forme de dispositif extrait de ce projet de film. Parce que les projets de film documentaire, c'est long, ça prend du temps. Ça fait déjà 4 ans que je suis dessus, et puis ça verra sûrement le jour en 2025, fin 2025. Mais entre-temps, j'avais l'occasion de présenter un dispositif qui embarque le spectateur de manière un peu plus physique aussi, qui jouait avec la présence du spectateur, avec deux écrans. Et j'ai donné comme exercice à Alex et Marc, qui sont ces deux brocanteurs, je leur ai dit, ça fait 2-3 ans que je vous filme, j'ai fait un petit montage d'une douzaine, 13 minutes, où on vous voit bosser. Et je vous propose de vous regarder travailler, c'est déjà une étape, c'est pas forcément évident, Et puis pour se marrer un peu, bah on va bruiter. Est-ce que ça vous intéresse de bruiter cette séquence-là? Et de les bruiter forcément avec les objets qui trimballent et qui ramassent dans leur hangar. Ouais.
Et on vous voit bruiter en plus. Vous êtes filmé en train de bruiter les images.
Voilà. Ouais. J'avais envie de montrer un peu le dispositif, de montrer un peu les ficelles de comment ça se passe. Et en me renseignant aussi un peu sur la question du bruitage, les bruiteurs au cinéma, c'est quand même souvent un peu les parents pauvres toute la chaîne de métiers qui est là-dedans. Et ils sont pas loin des brocanteurs, en fait. Ils ont toujours un bordel monstre de trucs et de poussière. Et donc, je me suis dit, c'est marrant, j'ai envie de bruiter ce film-là avec un métier qui, à l'intérieur de l'industrie du cinéma, est un peu proche des brocanteurs.
Très artisanal, quoi, en fait.
Ouais. Ouais.
Alors, il y a aussi un autre festival documentaire qui va avoir lieu à Nantes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qui s'appelle
La Vivalita.
La Vivalita, oui. Voilà.
Et oui, c'est intéressant parce que les festivals de documentaires, comme on en parlait tout à l'heure, c'est des chouettes moments pour voir des films. Et la Vivalita, c'est un truc qu'on organise avec une petite bande. On est 5 organisateurs de cet événement-là qui aura lieu du 26 au 28 septembre prochain à Pollen, dans le centre-ville de Nantes, la rue des Olivettes. Et donc, c'est un festival de documentaires. Tous les soirs, il y a une programmation qu'on a faite avec des films qu'on a regardé, qu'on a apprécié, dont on a fait une programmation. On invite tous les soirs au moins un ou deux réalisateurs ou réalisatrices, parfois aussi des producteurs qui viennent parler des films. Et surtout, on fait des boulettes. On organise
la
vente. On fait des boulettes de on vend sur place des repas. Et chaque année, enfin c'est la deuxième édition, notre principe c'est de faire des boulettes. Donc c'est aussi une carte blanche au cuistot pour créer de la boulette.
D'accord.
Donc c'est des films et des boulettes pendant 3 soirs à Pollen.
Donc venez vous régaler de films et de boulettes.
Exactement.
Du 26 au 28 septembre à Pollen, à Nantes.
Et c'est prix libre.
Et c'est prix libre en plus. Donc n'hésitez pas à encourager ces initiatives nantaises autour du cinéma qui sont nombreuses et dont on ne parle pas suffisamment.
Ouais.
Alors moi, ma question aussi, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi le documentaire et pas la fiction quand tu as décidé de faire des films?
Par exemple, dans le film de Seuil Libré de Laure Portier ou dans Le Kiosque d'Alexandra Pianelli, pour moi, la question ne se pose pas vraiment. On voit une histoire, on voit un récit. Effectivement, c'est une vraie personne qui existe vraiment. Mais ça ne change pas grand-chose pour moi de se dire que c'est quelqu'un qui existe vraiment qu'une représentation. Et c'est une représentation. Et ça devient un personnage. Je sais pas trop. C'est des questions qui sont encore en suspens et puis on les délimite souvent. Après, le documentaire, je sais pas, mais en tout cas, je sais que la plupart des choses qui m'intéressent, elles proviennent du réel. Elles proviennent de ce qu'il y a autour de nous, de la vie, de mes rencontres, des endroits que je. Et c'est de là que viennent les envies de films. Alors, je ne suis pas arrêté sur le fait que je ne vais faire que du documentaire.
Ah ah, alors tu pourras peut-être revenir nous voir pour nous parler du coup la prochaine fois de la fiction.
Ouais,
en tout cas, Clément, merci beaucoup pour ta présence. Cette première de Film et moi, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Et puis on attend impatiemment donc 2025 pour découvrir ton documentaire. Il y a quelques films à voir, même beaucoup en ce moment. Puisque c'est septembre, puisque c'est la rentrée, il y a l'incontournable Dahomey de Mati Diop au 14A qui suscite pas mal de débats et c'est, elle le dit elle-même, c'est l'objectif de son film, c'est de susciter des débats. Il y a À son image de Thierry de Beretti au 14A également, il y a Les graines de figuier sauvage de l'Iranien Mahmad Rasoulov. Le procès du chien de Laetitia Doche, dont on a parlé tout à l'heure, qui est aussi réalisatrice. Donc, Ma vie, ma gueule, le dernier film de Sophie Filière avec Agnès Jaoui. Et puis, pourquoi pas, Les barbares, la dernière comédie, on va dire tragicomédie, de Julie Delpy. Il est temps pour nous de vous quitter sur ces quelques idées de sortie cinéma dont les poussières d'images réjouiront vos pupilles. Très belle soirée et retrouvons-nous très bientôt en octobre pour un prochain Film et moi.
C'était Film et moi, l'émission cinéma mensuelle sur Jet 91.2. Retrouvez-nous aussi en podcast sur le site de Jet.